Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à ce podcast. Écoutez, ça nous parvient comme ça en plein milieu de Montréal, dans les studios ici, pour ce qui est de moi. Mais notre invité aujourd'hui est en banlieue de Paris, une invitée bien spéciale. Je vous la présente, Christelle Petit-Collin. Alors, bonjour Christelle.
Bonjour à tous, bonjour Marc-André.
Écoute, très ravi de t'avoir comme ça aujourd'hui. On s'est rencontrés en 2017 à Montréal. Oui, ça fait déjà un bout de temps. Ça va vraiment vite, surtout la pandémie. Pendant la pandémie, les 2 ans et demi, on dirait qu'elles ont été extraites du calendrier. En fait, c'est comme si ça faisait 2 ans et demi, mais en fait, c'est 6 ans que ça fait qu'on s'est vu la dernière fois. Et on s'était vu dans mon taxi. Web télé, coach taxi, tu t'en souviens?
Ah oui, on avait fait une belle balade dans Montréal, je me rappelle bien. Et puis on riait bien dans le taxi, on avait passé un très bon moment.
Oui, c'est un côté un peu ludique, évidemment, de faire une interview, comme vous dites, mais une entrevue, comme on dit ici au Québec. Et puis on avait parlé de ton méga succès, Je pense trop. Et puis, je vais t'avouer, moi, quand la maison d'édition, ton éditeur à Montréal, au Québec, les Éditions de l'Homme, là, ton éditeur canadien, m'avait demandé si ça m'intéressait de faire une entrevue avec toi, j'ai dit oui tout de suite. Je ne te connaissais pas. Et puis, j'ai dû lire le livre, là, vraiment là, en diagonale, mais je l'ai lu et presque étudié, je dirais même, après notre entrevue. Donc, ça s'est fait un peu à l'envers, là, la charrue en avant des bœufs. Mais là, pour « J'ai pas les codes », c'est complètement différent. Là, on va en parler dans un instant. Mais ouais, c'est ça. Non, mais n'ayez pas peur, là, ce ne sera pas trop exhaustif. Là. C'est quand même des
notes à moi. Ça, c'est un livre qui a été épluché, effectivement.
Non, mais c'est codé aussi. Hein. Le bleu, c'est les chapitres. Le rouge, c'est pour des trucs en introduction. Puis le vert, c'est des points là, que j'ai retenus. Alors, non, mais je suis pour un suréfficient moi-même. Et on peut le dire, ce qu'on peut dire que toi aussi, tu fais partie de la famille des suréfficients, des hyperesthésiques, des pense trop.
Oui, maintenant je le dis. Quand j'ai écrit Je pense trop, je voulais rester neutre et pas me mettre en avant et dire voilà, j'ai observé ça de l'extérieur, mais je le vis aussi de l'intérieur, effectivement. Et dans ce dernier livre, voilà, je ne me cache plus.
Exact. On va en parler dans un instant pour terminer sur le sujet de Je pense trop et l'entrevue. Quand on s'est connus en 2017, c'était... moi, ça a été révélateur parce que j'avais quand même un indice en faisant la première lecture que ça correspondait à qui j'étais, mais ce n'était pas le but là, de me découvrir, c'était de me préparer pour l'entrevue. On a fait l'entrevue, là, j'ai entendu des choses que tu nous as dites. On va voir le lien pour la fameuse entrevue de Coach Taxi va être évidemment donc dans le post et partout là, sur la suite de cette entrevue-là aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller voir. Mais il reste que j'ai en plus découvert Christelle Petit-Collin comme autrice, formatrice, experte. Alors, pour ceux qui veulent aller sur christellepetitcollin.com, vous allez avoir, bien sûr, le CV complet, tous les détails sur la grande dame que tu es, parce qu'on se tutoie en passant, pour ceux que ça pourrait choquer, on se tutoie parce que, bon, on s'est...
Parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés en vrai.
On s'est rencontrés, puis en plus, j'ai quand même gardé contact avec toi depuis tout ce temps-là là, pour des questions par rapport à ce qu'on fait mutuellement. Mais il reste que... Je veux quand même te présenter un peu plus officiellement. C'est pas... ça vaut la peine. Tu es écrivain, conférencière, formatrice en communication et développement personnel. Évidemment, donc, on va parler de ça aujourd'hui. Tu exerces depuis quand même une trentaine d'années.
Ça fera tout pile 30 ans en décembre.
Ah oui. Donc, 1993 à 2023, 30 ans. Tu donnes des conférences, bien sûr, à l'international. On peut justement en voir des conférences complètes. C'est quand même assez rare qu'on voit ça sur YouTube, là, de la part d'experts pluriels comme toi, parce que, bon, on veut essayer de garder un peu un mystère, mais pour ceux que ça intéresse, en plus de te lire, on peut aller te voir comme ça en conférence. Il y a des entrevues, interviews. Que tu as donné en France et ailleurs, qui sont assez aussi complètes, exhaustives. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses. Tu es formé à l'analyse transactionnelle. On va y revenir durant l'entrevue aujourd'hui. J'ai des questions pour toi. La PNL, l'hypnose ericksonienne. Et ça, j'avoue, c'est un petit coup de cœur que j'ai là, pour la thérapie provocatrice. De Frank Farelli. Je ne sais pas si c'est. Si c'est ben en fait, c'est assez évocateur parce que provocatrice, ça ressemble un peu à l'essence, la nature des surefficients, non?
Oui, et puis c'est comme toujours une façon de travailler très dissidente par rapport à ce qui est habituellement pratiqué. Donc c'est quelque chose qui est très bousculant, qui est très très ludique à faire et qui fait que mes séances sont souvent très drôle, c'est-à-dire on ne se moque pas, on rit ensemble de la comédie humaine, on prend du recul. Je ne sais plus qui disait, heureux celui qui sait rire de lui-même parce qu'il n'a pas fini de s'amuser. Et je ne sais plus de qui est cette citation, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que la thérapie provocatrice a pour but soit de créer un éclat de rire qui donne ce recul sur soi-même et qui rend les choses plus légères, même si elles sont très lourdes, soit de pousser la personne à se reconnecter à sa colère, hein, ce qui la sort du rôle passif de victime.
Bon, écoute, tu vois, mesdames, messieurs, on n'a même pas terminé de présenter sa biographie que déjà on est en train de savourer l'expertise, évidemment, bien sûr, ta façon d'être aussi articulée, éloquente. Donc, on met ça sur pause un instant parce que je veux
Voilà. Je
terminer ici
voudrais
là, de.
quand même rajouter quelque chose qui me paraît important. Frank Farelli est mort. Alors du coup, je ne sais plus, avec ces 2 ans qu'on a perdus, moi j'aurais dit que ça faisait 6 ans qu'il était décédé. Frank Farelli, le père de la thérapie provocatrice. Et tout ce qui nous reste de lui aujourd'hui, c'est son livre, La thérapie provocatrice de Frank Farelli, et quelques vidéos sur YouTube. Et c'est pour ça, tu parlais tout à l'heure de mes conférences en accès gratuit et en libre accès sur ma chaîne YouTube. C'est que j'ai vraiment à cœur de transmettre un maximum de choses avant de partir. Alors, je n'ai pas l'intention de partir tout de suite, on est bien d'accord. Mais quand je vois que tout ce qui nous reste de Frank Farelli, c'est quelques vidéos et ce livre, j'ai vraiment à cœur que les lecteurs et les non-lecteurs puissent avoir accès à des contenus
Mais
en hommage
bravo.
à ce grand homme.
Mais bravo, puis tant mieux si, outre les vidéos et le livre qui demeure quand même dans le paysage public de lui, si toi, en plus, tu peux continuer à garder la flamme, à porter le flambeau de
De la
ces.
transmission, oui.
Ouais, exact. Donc, tant mieux. Écoute, tu te spécialises dans la compréhension donc des mécanismes de manipulation. Tu as d'ailleurs publié plusieurs livres sur les manipulateurs et le cercle qui est touché par les manipulateurs. Alors, c'est à voir pour ceux que ça intéresse, bien sûr, en librairie, sur ton site et sur YouTube aussi, parce que j'ai déjà vu une conférence de toi là-dessus.
Oui, j'ai
Dans
écrit
une tente.
cinq livres sur le sujet.
Cinq quand même, donc vous ne manquerez pas de contenu, là, dépendant de la position sur laquelle le sujet vous intéresse. Et bien sûr, donc, tu spécialises bien sûr sur l'étude de la surefficience mentale, qui est notre sujet aujourd'hui, entre autres, principal, mais vous allez voir, on va toucher quand même à autre chose parce que tu as écrit vraiment, c'est un trésor qu'on a entre les mains avec J'ai pas les codes, on va en parler tout à l'heure.
Merci.
Best-seller, je pense trop, dont qui est un peu, je vais quand même faire attention aux mots que j'utilise, mais qui est un peu le noyau de notre conversation aujourd'hui, parce que j'ai pas les codes, en fait, découle de ton travail sur les pense-trop. On va voir comment tu le définis tout à l'heure. Et puis, bien sûr, tes livres sont traduits dans le monde entier. C'est même sur ton site Internet, je pense qu'il y a une partie qui est en russe ou quelque chose comme ça. C'est possible, ça, est-ce que j'ai vu ça?
Alors, oui, ben, c'est parce que j'ai un lien particulier avec la Russie et que je parle russe. Mais je suis aussi allée jusqu'en Corée. Là, normalement, je ne vais pas tarder à aller en Serbie, où mes livres sont aussi des best-sellers, puis en Pologne aussi, où les livres marchent très, très bien. Et là, je viens de signer des contrats avec la Chine, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà.
Ah ben écoute, c'est fascinant. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bien sûr, j'en retire... quand même des bénéfices personnels parce que j'ai beaucoup appris sur moi-même à travers ces deux livres-là, Je pense trop et j'ai pas les codes dont on va parler aujourd'hui, mais aussi quand même, on se comprend là, que je conduis l'entrevue en fonction de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent, pour que ça fasse du sens pour eux, que ça puisse quand même faire des lumières sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, et puis bien sûr, comment sortir un peu là, de certaines situations et sentiments désagréables. Donc, écoute, tu décris, tu me dis si tu es toujours d'accord avec ça, là, dans le livre, à un moment donné, tu décris « J'ai pas les codes » comme étant un manuel de décryptage des normaux pensants.
Oui.
Tu peux nous en dire plus sur comment tu présenterais justement ton nouveau livre « J'ai pas les codes » ?
Alors, je le présenterais en disant que ce livre est une demande de mes lecteurs et un défi. C'est-à-dire que depuis que j'ai écrit « Je pense trop », mes lecteurs, ma clientèle passent son temps à me dire « Mais moi, je comprends pas ce monde, je fais des gaffes, j'ai des ennuis en entreprise, je comprends pas pourquoi ils parlent pour ne rien dire, mais pourquoi ils résolvent pas les problèmes. » Enfin voilà. Et donc, écris-nous un livre qui nous explique comment marche ce monde neurotypique, parce que moi, j'y comprends rien. Et donc, c'est une demande que les pense-trop me faisaient. Et j'ai hésité longtemps parce que comme je suis une pense-trop aussi, j'avais pas plus les codes qu'eux. Au départ, hein, j'ai pas plus les codes. Et je me disais, les neurotypiques, eux, ont tellement intégré les codes, c'est tellement inconscient chez eux qu'ils ne seront pas plus capables de les verbaliser. Donc, on fait quoi ? Entre les neurotypiques, pour qui tout est tellement évident qu'ils auraient l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en nous expliquant comment ça fonctionne, et nous qui n'avons pas les codes, donc du coup, j'ai pris mon bâton de pèlerin, Et je suis partie en exploration. Il y a des lecteurs qui m'ont dit, mais tu as fait un véritable travail d'anthropologie.
ma première réaction, mais on va en parler tout à l'heure. Effectivement, c'est très juste, oui. Mais voilà. Sur le sujet d'aujourd'hui, étant donné que c'est quand même assez ciblé, c'est-à-dire quand on parle de normaux pensants versus suréfficients, avant peut-être d'aller trop loin, je sais qu'en peu de mots, c'est difficile de définir ces deux mondes-là, mais serais-tu capable de nous résumer ça un peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces notions-là, ces épithètes-là, ouais?
Alors, en même temps, s'ils ne sont pas familiers, c'est qu'ils vivent un petit peu sous terre, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on commence à beaucoup parler de HPI, de surdoués, d'hypersensibles, de neuroatypiques. Donc, la particularité des pense-trop est quand même de plus en plus reconnue. Donc, les neurotypiques, ce sont 85% de la population à peu près, de gens qui sont câblés. Alors, je le dis, puis après je rectifie, qui sont câblés cerveau gauche dominant, avec une pensée linéaire et séquentielle, et donc les pense-trop, qui sont plutôt des hypersensibles atypiques, avec une pensée complexe arborescente. C'est-à-dire que 85% de la population réfléchit comme s'ils avaient une corde à nœud en suivant un raisonnement logique et séquentiel, et les pense-trop, qui sont les suréfficients dont on parle aujourd'hui, sont des gens qui ont une pensée en toile d'araignée, où chaque idée amène 10 nouvelles idées. Au niveau purement neurologique aussi, on s'aperçoit que le système sensoriel n'est pas le même que les hypersensibles sont objectivement, neurologiquement hypersensibles. C'est-à-dire qu'ils ont les cinq sens plus développés, plus en alerte, plus fins que la moyenne des gens. Ils voient tout, ils entendent tout, ils ressentent tout avec une acuité beaucoup plus grande. Et il leur manque un petit sélecteur qu'on appelle l'inhibition latente, qui permet aux neurotypiques de trier les informations, donc de rester concentrés. C'est-à-dire que si, là, par exemple, on est en train de parler, s'il y avait un marteau-piqueur dans la rue, le neurotypique a l'inhibition latente qui lui permet d'effacer ce son et de rester concentré sur la conversation. Les neuroatypiques ne l'ont pas, donc sont obligés de gérer simultanément la conversation et le marteau-piqueur, donc sont plus fatigables, plus excitables aussi au niveau sensoriel. Voilà, en gros. Alors, pourquoi je mets un petit bémol, c'est que les notions de cerveau droit, cerveau gauche sont remises en cause par la communauté scientifique qui dit que à l'IRM, tout clignote dans le cerveau. Donc, on n'est pas que ces notions soient obsolètes. Mais moi, je ne crois pas qu'elles soient obsolètes parce que être cerveau droit dominant ou cerveau gauche dominant ne veut pas dire être lobotomisé. Donc, évidemment que ça marche bien quand même des deux côtés. Mais c'est, pour moi, c'est d'où arrive l'information. Mais quand même, je trouve que ces derniers temps, la notion de neuroatypique est quand même de plus en plus développée et acceptée par la majorité. Ça vient.
Oui, et puis…
Voilà, j'ai bien résumé.
Écoute, très bien. Puis de toute façon, pour ceux qui ont besoin de le réentendre, mais vous savez quoi faire, vous pouvez reculer la bande audio ou vidéo. Mais enfin, sérieusement, c'est vrai que tu as raison là-dessus. Même si je crois que à certains niveaux plus scientifiques, le Québec est peut-être un petit peu… parfois en retard sur la France là, par rapport à certaines notions scientifiques. Mais attends, je vais terminer. Puis j'ai quand même, par contre, on sait qu'au niveau du développement personnel, le Québec, c'est un volcan, je veux dire. Ça bouillonne depuis quand même plusieurs années. Et puis on le voit, là, bon, les conférenciers ou speakers québécois sont quand même assez populaires, non seulement ici, mais en France aussi. Mais pour ce qui est de la question de neuroatypique, ça fait son entrée dans le monde, disons, corporatif. Ma clientèle, à moi, c'est les entreprises. Donc, je donne des conférences en entreprise. Et puis, je dirais que c'est encore un peu brouillon pour la plupart des dirigeants, des managers, de savoir exactement à quoi on a affaire quand on considère quand même que, si on fait un peu de lecture, on sait que les gens, disons, neuroatypiques sont quand même… très engagés, plus engagés que les normaux pensants au travail, et aussi souvent ont plus de succès, surtout en affaires en tant qu'entrepreneur. Ben, je termine là-dessus, je veux te laisser la parole parce que je t'ai interrompu là, quand même brièvement tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça concernant la question des neuroatypiques?
Oui, quand tu disais que les Québécois étaient en retard sur les Français, ça m'a fait bondir sur ma chaise. Oui. Parce qu'il y a justement un mouvement qui part du Québec qui milite pour la neurodiversité et qui pose le postulat que l'autisme, les 10, les surdoués, etc., c'est la même famille de neuroatypiques à pensée complexe arborescente avec hyperesthésie. Et ce mouvement qui milite pour la neurodiversité, il part du Québec. Donc là, pour le coup, moi, je vous tire mon chapeau.
Mais écoute, c'est certain que je ne veux pas entrer trop dans un débat, mais il reste que toi, tu es une scientifique. Hein? Donc, tu fais de la recherche, tu écris, c'est structuré, c'est détaillé, c'est précis, etc. Tandis que d'un point de vue plus, d'un profane, même si je suis en contact avec les organisations, les managers par rapport à leur travail d'équipe et le recrutement de personnel, leur développement professionnel, etc., je trouve que on est quand même assez loin de la plaque pour dire là, en 2023, là, on s'entend, là, on est en juillet maintenant, donc je dirais qu'il y a encore, du chemin à faire pour ceux qui ne sont peut-être pas nécessairement trempés dans les sujets de développement personnel et professionnel.
Sur toute la planète.
Ah, bon, donc, en passant, juste une petite parenthèse, tu dis neuroatypique. neurotypique, mais dans ton livre, tu parles d'atypique et
Oui, je
de
parle de
typique.
surefficient et de normopensant.
Oui, OK. Parce que quand on parle d'un atypique ou d'un neuroatypique, c'est quoi la différence?
Alors, la différence, c'est que j'en ai parlé un peu en pionnière. J'ai été la première auteure à me démarquer du terme de surdoué qui était le seul employé à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'avais créé le terme de surefficient quand j'ai écrit Je pense trop. Donc, j'avais créé surefficient normopensant. Donc, normopensant, pensant dans la norme et surefficient avec la cervelle qui bouillonne. Mais depuis, le vocabulaire a évolué et on parle de plus en plus de neurotypique et de neuroatypique. Et je dois dire que si j'avais disposé des termes à l'époque, peut-être c'est cela que j'aurais privilégié.
OK. Mais écoute, c'est quand même fascinant. On sait, là, je parle à les auditeurs et ceux qui nous regardent. On est vraiment en présence de la meilleure personne pour parler de ce sujet-là. Là, je pense que ceux qui n'étaient pas certains exactement en quelle compagnie on était, là, vous l'êtes. Alors, on y va. Je n'ai pas les codes. Je vais te donner mes trois premières réactions. OK? Donc, en gros, première chose, effectivement, ça a été. En fait, je l'ai évoqué un peu, là, j'ai tout de suite compris là, que c'est un livre qui venait valider certains de mes comportements. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles tu mets le doigt dessus. Et en tout cas, je suis vraiment étonné, agréablement étonné, surpris de voir à quel point tu touches quelque chose que moi je considérais qui était peut-être tout simplement chez moi, puis je pense que pour les surefficients qui nous écoutent, qui nous regardent, pensaient que c'était leur trait de caractère qui était unique, c'était comme ça. Et puis bon, on n'en fait pas trop d'histoire, mais quand on se rend compte que c'est une science derrière. Alors ça, c'est fascinant, c'est la première réaction. Deuxième réaction, si tu permets, c'est le fait que justement, tes références, c'est du bonbon. Écoute, c'est riche, c'est étendu, tu vas au-delà du sujet pour justement parler du sujet, entre autres la question anthropologique, donc de l'Homo sapiens. On va pouvoir y revenir. Tu vas aussi loin, donc encore une fois, avec l'analyse transactionnelle, Éric Berne et tout ça, ces études, et tu fais des liens. Écoute, moi, j'ai été. La physique quantique, c'est riche. Pour quelqu'un qui est curieux, c'est extraordinaire et c'est tellement bien écrit. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui lisent peu, je vous le dis, ça coule. On peut pas le laisser tomber. C'est un récit en plus parce que ça, c'est le troisième point qui m'a touché de ton livre. C'est que tu te dévoiles, ma chère Christelle. On voit, oh, hein, tu montres tes couleurs non seulement du fait que tu parles au jeu, tu peux te permettre de parler au jeu en tant que surefficient toi-même, mais aussi c'est que tu donnes tes opinions. Il y a une fois, il y a un endroit, c'est que tu dis, ah, c'est beau, c'est noble, mais c'est couillon. Alors, alors je me suis rendu compte que tu donnes un petit peu quand même ta position sur certaines choses, tes opinions, tes couleurs, c'est ça, et puis ta position. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui enrichit beaucoup le livre, qui le rend en fait quand même non seulement sympathique, mais aussi qui permet de faire des liens beaucoup plus aisément. Quand on lit le livre, qu'on soit normopensant ou surefficient, je considère que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde parce que si on n'est pas surefficient, on vit avec 15% de surefficient dans la vie.
Alors, je pense que les neurotypiques, ils auront pris le livre autrement. C'est-à-dire que pour eux, j'écris des évidences. Puisque eux, ils les ont tellement intégrés, les codes, que bah oui, c'est évident. Je crois que la phrase type, clé des neurotypiques lisant le livre, c'est bah, j'aurais pu te le dire. Oui, mais tu ne m'as pas dit.
OK, les évidences, oui, c'est ça. Mais ce n'est pas de l'arrogance, là. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est acquis là, chez eux.
Mais
Ils ont.
oui.
Oui, OK.
Oui, c'est vraiment chez eux. Ces codes que nous, on n'a pas, chez eux, ils sont tellement intégrés. C'est un petit peu comme le fait de faire ses lacets. On les fait machinalement le matin, et puis c'est quand on doit expliquer à un enfant comment faire ses lacets qu'on ne sait plus, alors on passe le fil au-dessus, au-dessous. Et pour eux, c'est tellement, tellement intégré qu'ils n'ont même pas besoin d'y réfléchir. Hein.
Écoute, le livre, c'est 8 chapitres. Le premier chapitre, déjà, on sent que on va parler de la vraie vie, entre guillemets. Conversation de salon. Alors, les conversations de salon, c'est le titre du premier chapitre. Et une chose qui tout de suite qui m'a touché, c'est à quel point le commérage, c'est une fonction sociale importante. Parle-nous de ça.
Alors, ça, c'était effectivement la première demande de mes lecteurs. Explique-nous pourquoi ils parlent pour ne rien dire. Le small talk est quelque chose qui passe complètement au-dessus. Donc, je me suis dit, mais il y a forcément une bonne raison pour parler pour ne rien dire. Il y a forcément une bonne raison. Et en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, tout ce que je décris dans le chapitre, le fait de garder l'ambiance légère, hein, si on commence à parler des sujets plombants, comme la guerre, l'écologie et tout, on change l'ambiance de la soirée. Donc, le small talk a pour but de laisser les choses légères. Et c'est en lisant Daniel Tammet, l'autiste Asperger, qui a écrit Embrasser le ciel immense, c'est lui qui décrit et qui a remarqué que le commérage chez les humains avait la fonction de l'épouillage chez le singe, qui est de créer du lien social. Et après, les sociologues s'en sont mêlés et ont regardé que le simple commérage permettait de garder la cohésion d'un groupe pratiquement jusqu'à 100 individus.
Quand
Juste
même.
avec du commérage, en parlant les uns sur les autres, qui dit quoi, qui a fait quoi, etc., le commérage permet de compacter un groupe et de le souder. Donc, ça a une fonction sociale très importante. Et ce que Daniel Tammet ajoutait, parce que nous avons en tant que surefficients une vision négative du commérage, que dans le commérage, il n'y a que 10% de médisance. C'est le même chiffre
Oui,
que ça.
je me souviens de ça. C'est ça c'est vrai ça. Parce qu'on a
Voilà.
l'impression que c'est presque 100% de médisance dans le commérage.
Et
Mais
en
c'est
fait, non, il n'y a que 10%. Et le reste,
Mmh.
c'est effectivement. Alors, ma tante s'est fait opérer d'une vésicule biliaire. Le fils du voisin a rompu avec sa copine. Ah, mais le boucher, ils ont changé de voiture. Et nous, on est là sur Efficient, on dit, mais à quoi ça sert de parler de ça? Eh
C'est
bien, on
ça.
se rend compte qu'en fait, nous, on nous demanderait, on ne saurait pas dire. Mais que d'une certaine façon, les neurotypiques s'intéressent bien plus les uns aux autres, justement sur des détails, mais qui sont capables de dire, de savoir que l'un a été opéré, que l'autre a rompu, que le troisième a changé de voiture. Ils s'intéressent beaucoup plus les uns aux autres que nous, paradoxalement.
Comment on fait pour
Alors,
passer ce moment-là? Oui.
il faut donner un autre sens au small talk. C'est ce que je m'applique à faire dans le chapitre. Le small talk est bénéfique pour tout le monde. Il maintient un ton léger. Il permet vraiment de garder l'ambiance légère. Il permet de ne pas être trop intime avec certains. Il permet de ne pas engager des débats houleux. Donc c'est bien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu un retour de lectrice pratiquement après la sortie du livre. Et elle m'explique ceci. Elle est partie pour un week-end de jeux de société. Tu sais, les jeux de cartes, les petits chevaux, le jeu de loi, etc. Vous avez les mêmes au Québec, on est d'accord. Et
Ben,
donc,
j'imagine.
c'était sur Suisse et ils faisaient un week-end comme ça où tout le week-end, ils ont joué aux cartes et aux jeux de société. Et elle dit, grâce à la lecture de ce chapitre, j'ai enfin passé un week-end léger. Et donc, je me suis sentie en sécurité, parce que quand on commence à aller dans l'intimité et tout, on se met en danger. J'ai passé un week-end en sécurité léger. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un si bon week-end. Et alors, cette lectrice, elle est venue à une de mes conférences quand je suis passée sur Suisse. Et du coup, elle a complété son propos en disant, pendant le week-end, il y avait un autre surefficient qui était là. Et lui qui n'avait pas lu le chapitre. Et elle l'a vu faire. Il attrapait l'un, il attrapait l'autre. Il essayait de lancer des grands débats. Il embêtait tout le monde. Et elle dit, en le regardant faire, j'ai eu pitié parce que je me suis vu faire comme je faisais avant. Donc, comme quoi, il y a des gens qui ont compris l'intérêt du small talk. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les neurotypiques, le lien ne passe pas par la discussion. Il passe par la cohésion du groupe, le fait de se sentir ensemble. Et donc, la discussion est accessoire, alors que nous, tout passe par le langage.
Nous, les sur-efficients, ça passe comme ça. Donc, c'est un peu comme un éclat de conscience que ta lectrice a eu, parce que c'est ce qui fait la différence. Quand on est conscient de quelque chose, après, c'est comme quand on souffre d'une grande maladie, on frôle la mort ou un accident de voiture, on frôle la mort, etc. Quand on revient, on a une conscience différente et donc il y a des combats qu'on laisse tomber. Donc, j'ai l'impression qu'elle a lâché prise au lieu d'être en résistance, comme l'autre sur-efficient qui était sur place, qui lui voulait faire la grande discussion pour changer le monde. Il reste que je pense que c'est ça que ça fait ton livre.
Alors, elle a
c'est un éclat de conscience.
Ouais. Elle a lâché prise, mais elle a aussi donné un autre sens à ce qu'elle se permettait de juger. C'est-à-dire, nous, les sur-efficients, on juge que les normaux pensants parlent pour ne rien dire. Mais quand on a compris la fonction sociale du small talk, parce qu'il n'y a pas que le commérage, je donne énormément d'éléments, qu'on a compris que le small talk est bénéfique pour tout le monde, dans ce cas-là, on le pratique avec beaucoup plus de... comment dire, de
légèreté
bon
ou de, ouais, oui. D'engagement, ouais, c'est ça, ouais. Parce que ça m'amène justement à l'autre point, deux pages plus loin, page 32, tu nous parles de l'importance des signes de reconnaissance. Et je vais faire la parenthèse aussi, là, le fait que c'est quelque chose qui survient dans la vie de bureau. Et là, étant donné qu'on se parle en 2023, ça fait quand même déjà 3 ans qu'on est en télétravail intensif, là, quand même, dans les organisations un peu partout dans le monde. Il y a donc une partie qu'on pourrait dire, je sais que ma question a plusieurs niveaux, là, mais ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'on est en train de perdre à cause de cet évitement. On dirait, là, c'est comme un évitement qu'on fait de façon volontaire de retourner dans un cadre de travail,
disons, en
personne.
On est en train,
ouais, c'est ça. Donc,
on est en train de perdre le lien, là. On est en train de perdre
oui,
le lien.
Oui. Et qu'est-ce que ça fait chez nous, donc, les sur-efficients? Qu'est-ce que ça va provoquer pour chez eux?
J'ai envie de dire, le lien et les signes de reconnaissance ne passent pas par les mêmes canaux quand on est normopensant et quand on est sur-efficient. Mm-hmm. Et le sur-efficient, ça va être plutôt dans l'intensité de la relation. Nous sommes, et j'en parle plus loin dans le livre, nous sommes trop souvent sur des relations que nous voulons directement intimes. Intimes dans le sens de cœur à cœur, sans filtre, etc. Je ne dis pas intime, mais voilà, on cherche un niveau d'intimité dans l'échange beaucoup trop intense, beaucoup trop profond, et donc qui met tout le monde en danger, en fait.
Mais justement, c'est parce que plus loin dans le livre, justement, tu en parles quand on a les normaux pensants qui, pour eux, la simple présence physique est suffisante, alors oui. Que pour nous, c'est au niveau psychique, on doit ouvrir les valves et se dévoiler. Et puis bon, là, c'est là qu'on se met en danger dans des situations inconfortables et pour tout le monde, en fait, aussi, oui. Et qu'on fait nos fameuses gaffes. Donc ça, c'est une des choses qui pourrait peut-être manquer aux sur-efficients, le fait d'être plus en télétravail qu'en travail en personne, mais c'est quand même un avantage d'une certaine façon.
Parce je pense que oui.
On évite des situations qui pourraient faire du mal. Donc il y a quelque chose là-dessus. Mais j'ai commencé en parlant de l'importance des signes de reconnaissance et ça, je ne veux quand même pas passer par-dessus parce que je considère que c'est une partie importante, en tout cas du moins pour moi, quand j'ai entendu ça, là, donc la question de conversation de salon, on est toujours dans le premier chapitre, la question de ces signes de reconnaissance-là que l'humain cherche toujours cette validation-là d'une certaine façon, c'est ce qui est le moteur, c'est ce qui est le souffle, l'oxygène de l'essence du terrifiant, non?
De tout le monde, de l'être tout le monde. Humain. Alors là, le paradoxe est le suivant, je ne peux être en vie que tant que j'ai des preuves que j'existe. Sinon, je bascule dans un néant qui est plus effrayant que la mort.
Oui, oui, oui.
Et ça, c'est vrai aussi bien pour les surefficients que pour les normaux pensants. Je vais te donner un exemple très concret qu'on connaît tous, qui va permettre à nos auditeurs de comprendre. Ça nous est arrivé à tous, on est dans la rue, il y a quelqu'un qui arrive vers nous avec un grand sourire et les bras tendus, et en fait, il s'adresse à la personne derrière nous. Et au moment où on réalise qu'il s'adresse à la personne derrière nous, on ressent un intense petit malaise. D'accord ? Oui. Eh bien, c'est parce qu'il a failli nous permettre d'exister et il nous a rendu transparents. Et c'est cette transparence qui nous est si désagréable. Donc, et ça, c'est vraiment ce petit incident qui nous arrive à tous, c'est un tout petit échantillon de ce qui nous arrive quand on est privé de signes de reconnaissance. On bascule dans le néant, et d'où les ados qui se scarifient, par exemple, pour se sentir à nouveau exister. On se fait mal parce que la souffrance permet d'exister à nouveau. Donc, dans ce small talk, etc., il y a une possibilité d'échanger des signes de reconnaissance, de se montrer mutuellement qu'on a vu, qu'on est là, qu'on existe. Mm-hmm. Hein, je t'ai vu, tu n'es pas transparent, tu existes, en toute sécurité, puisque c'est une conversation anodine.
Ça veut dire quoi, scarifier?
C'est quand on se coupe. Hein.
Ah, les adolescents sont forts là-dessus.
Moi, je pense que nos adolescents, enfin, en tout cas, les adolescents qui se coupent, qui se scarifient.
S'auto-mutilent.
Oui, c'est ça. C'est un signe de grande détresse, de basculement dans le néant, justement, de cette espèce de vide où ils ne se sentent plus exister.
Un sujet pour peut-être une autre discussion ou un autre livre, on ne sait pas, parce que c'est un travail en cours qui est vraiment inquiétant. J'ai des exemples de jeunes, justement, des ados chez mes amis là, qui m'aiment à se prendre une râpe à fromage et se râper le dessus des cuisses. Là, c'est atroce. Voilà. En tout cas,
il y a tout et ça, c'est la douleur qui me permet de me sentir à nouveau exister. C'est terrible. C'est dire à quel point il bascule dans le néant. Donc là, je ne sais pas si on peut lire ici ou pas, il y a sur ma chaîne YouTube une petite conférence qui s'appelle « La confiance en soi, comment elle s'acquiert, comment elle se perd
okay. »,
sur laquelle j'explique tout le fonctionnement des signes de reconnaissance.
Bon, ben je pourrais mettre le lien dans le post, là, en fait, à travers la description de notre entrevue d'aujourd'hui sur YouTube, entre autres. Et dernier petit point sur le chapitre 1, c'est ça m'a touché un peu personnellement, mais ça touche plusieurs personnes parce qu'on dit qu'il y a une personne sur sept, selon Statistique Canada, il y a une personne sur sept au Québec qui est célibataire. Tu dis dans le livre que les gens seuls développent plus de rituels. Et est-ce qu'on pourrait dire que revenir aux personnes, disons, entre guillemets, seules ou personnes célibataires, est-ce qu'il y a une proportion plus grande chez les surefficients de la catégorie, de la rubrique des célibataires ou c'est
alors, l'autre? Oui, je reviens dans le livre un petit peu plus loin sur la gestion de la solitude. Il y a différentes solitudes, on peut être seul, tout seul ou seul au milieu des autres, on peut, etc. Et pour beaucoup de surefficients, il y a une forme de découragement quand on a trop gaffé, quand on s'est trop fait rejeter et critiquer, etc. Il y a une forme de découragement qui fait que finalement, tout seul, je suis plus en sécurité que quand je suis au milieu des neurotypiques. Donc, dans ce cas-là, justement pour pallier au manque de signes de reconnaissance, on développe des rituels qui sont autant de rendez-vous avec nous-mêmes.
Donc, c'est comme ça que le surefficient va
va se décourager des relations avec les autres, oui.
Et finalement, va développer plus de rituels pour se sécuriser. Est-ce que c'est un bon verbe à utiliser, se sécuriser d'une certaine façon, les rituels?
C'est ça, c'est une sécurité de se sentir exister, ce qu'on disait tout à l'heure.
Okay.
Mes rituels me permettent de ne pas basculer dans le néant parce qu'à chaque rituel, j'ai rendez-vous avec moi-même et je me sens exister.
Est-ce que ça ne fait pas un peu un effet qu'on appelle en américain un catch-22, un cercle vicieux un peu là où on peut comme développer finalement tellement de rituels qu'on c'est difficile à briser, donc ça nous amène à être encore plus seul?
Oui, absolument, parce que le problème, c'est que ces rituels, c'est un minimum vital. Si je perds mes rituels, je bascule dans les néant dont on parlait tout à l'heure. Donc, mes rituels sont autant de rendez-vous avec moi-même, mais qui me maintiennent en survie, mais qui ne laissent plus la place à la vie. J'avais remarqué ça, par exemple, avec les petits vieux en France, quand ils sont à la retraite, ils ont pratiquement plus de vie sociale, plus de et donc, ils ont beaucoup de rituels. Et c'était un kinésithérapeute qui m'avait dit, mais les plus compliqués pour leur donner un rendez-vous, c'est les petits vieux. Parce que à telle heure, il y a le feuilleton, à telle heure, il y a le marché. Et du coup, leur vie est tellement pleine de rituels qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Donc, je pense que c'est un peu le problème des célibataires. C'est si je suis célibataire, je mets quelqu'un dans ma vie, pendant qu'il est là, je ne peux pas m'adonner à mes rituels. Donc, j'ai peur d'être en souffrance. Alors que normalement, la présence de l'autre devrait me nourrir 10 fois plus que mon rituel.
Oui. Comment qu'on casse ça?
Ben déjà, peut-être par la prise de conscience. Et puis, y a une petite anecdote que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un disciple qui demande à Socrate, « Maître, maître, dois-je me marier ou dois-je rester célibataire ?» Et Socrate aurait répondu, « Peu importe, tu le regretteras.
» Mais je ne me souviens pas d'avoir vu ça dans le livre. Est-ce que c'est dans le livre?
Non, je ne crois pas l'avoir mis dans le livre.
Oui, c'est ça.
Ça passe pas peine. De célibat.
Mais ça vaut la peine de prendre voilà. Ça en note, ouais. C'est certain.
Qu'on soit célibataire, on peut glisser sur un des autres chapitres où je parle du récit collectif.
Oui.
Et le récit collectif dit tu dois être en couple. Il y a une énorme pression sociale et une énorme injonction de conformité de se mettre en couple. Ce qui fait que le célibat a mauvaise presse. Alors, encore plus pour les femmes, hein, les hommes célibataires, vous avez quelques héros célibataires, hein, que ce soit James Bond, Lucky Luke ou d'autres, vous avez des héros célibataires. Nous, les femmes, on n'a aucune héroïne célibataire. Donc, une femme célibataire est une laissée pour compte et elle subit une pression sociale énorme et il faut que tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas rester ça, etc. Encore plus forte que les hommes. Mais cette pression sur les célibataires en général vient du récit collectif et du conformisme qui est retourne dans le récit et conforme-toi aux règles.
On va y revenir au récit collectif.
Peut-être déjà décontracter les célibataires. Je suis sûre qu'il y a énormément de gens mariés qui nous envient.
Oui. Ah oui, puis de toute façon, les statistiques sont là, le fameux 50% de divorce et l'autre 50% des gens qui sont en couple souvent sont là par obligation plutôt financière, voilà. Là, qui veulent respecter
donc,
le
trinité. Voilà. C'est-à-dire que tout le paradoxe du monde neurotypique, c'est qu'à la fois, il te donne l'injonction de te mettre en couple, mais il t'envie de ta liberté.
Paradoxe, non? Oui. Mais c'est... tiens, on est en train d'essayer de trouver des solutions à certains des difficultés ou défis des surefficients. Puis ton chapitre 2, c'est un autre chapitre qui a touché des cordes chez moi parce que s'intitule « Les problèmes sont-ils faits pour être résolus? » Et je peux juste, si je peux permettre de partager, peut-être des surefficients comme moi vont se reconnaître là-dedans, mais moi, j'ai pensé que c'est parce que j'étais un j'avais l'âme du coach ou de l'enseignant que j'avais toujours tendance à vouloir aider, donner des commentaires, du feedback, quoi que ce soit, à des gens qui font soit une présentation ou autre chose dans leur business, là, que des choses que je considère que je pourrais peut-être aider. Alors, avant avoir lu ton livre, je me suis toujours mis dans l'embarras à vouloir donner du coaching non sollicité à des gens autour de moi que je connaissais ou que je ne connaissais pas, peu importe. Alors, écoute, parle-nous de ça, là, de cette manie, si on pourrait dire, des gens comme nous, de se mettre les pieds dans les plats, à vouloir absolument toujours régler les problèmes du monde entier ou de celui de son voisin.
Alors, il y a plusieurs aspects, encore une fois, dans ce chapitre. Hein. Les problèmes sont-ils faits pour être résolus? Quand tu poses la question à un surefficient, il te regarde étonné, il dit, ben oui, évidemment que les problèmes sont faits pour être résolus. Donc déjà, on a cette croyance-là qu'un problème doit avoir une solution. Mmh. Et c'est là où déjà on se trompe, parce qu'effectivement, des problèmes, il y en aura toujours, il y a que ça sur Terre. D'ailleurs, je ne sais pas où nous est venue l'idée qu'on allait résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes, c'est vider la mer avec une petite cuillère, quoi. Enfin, il y a un moment, faut redevenir réaliste à ce niveau-là. Après, je pense qu'on a quand même, tu sais, j'en parle dans Je pense trop, c'est le fameux syndrome de Cassandre. Comme on a une vision globale, panoramique, on voit venir les ennuis de plus loin que les neurotypiques. Donc, on voudrait prévenir, on voudrait informer, on voudrait empêcher que ça se produise. Et du coup, on s'attire que des ennuis, comme la pauvre princesse Cassandre qui avait dit « Ne faites pas rentrer cheval de Troie dans la ville, je ne le sens pas, pour rien, puisqu'ils ont… » Voilà. Donc, ce syndrome de Cassandre qui fait que nous, les problèmes, on les voit arriver de plus loin et donc on pourrait les prévenir mieux. Mais après, ce qu'on n'a pas compris, nous, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que pour les neurotypiques… les problèmes ont une fonction sociale. Ça donne de quoi causer, ça donne de quoi se réunir, ça donne de l'importance. Au point qu'il y a une publicité pour une assurance en France dont le slogan est « Le problème, quand tu es bien assuré, c'est que tu n'as plus rien à raconter. » C'est le slogan de l'assurance.
Ah oui, c'est incroyable. Ah oui.
Voilà, quand tu es bien assuré, c'est que tu n'as plus rien à raconter. Et les petits spots publicitaires, c'est des gens qui mentent complètement, qui grossissent un truc. J'ai croisé un tigre alors qu'ils ont croisé un chat. Enfin, voilà. Et donc, les problèmes nous donnent de l'importance.
Oui.
Moi, j'ai des problèmes, donc je suis important. Et alors, ça, tu vois, on le retrouve en plein en entreprise. C'est qu'il y a une espèce, alors surtout en France, je ne sais pas, vous êtes peut-être un peu plus raisonnable et pragmatique au Québec, mais en France, le service le plus important est celui qui a le plus de problèmes. Donc, si moi, sur efficience, j'arrive et qu'en une semaine, j'ai résolu tous les problèmes du service, je fais passer le service, un, je les fais passer pour des idiots, et deux, je les fais passer pour des glandeurs.
Oui. Oui, voilà. Et puis, pourquoi on vous embauche si vous n'avez pas rien à régler aussi, là, il y a cette question-là. Donc, je l'ai pris en note. D'avoir des problèmes, ça nous met dans le ton, ce que tu utilises comme mot dans le livre. On est dans le ton quand on a des problèmes. Donc, sinon, on n'est presque pas intéressant. J'ai vécu ça récemment dans une conversation. Je me suis rendu compte que peut-être que je donnais l'impression que j'avais pas de problème. Cette personne-là, qui est un collègue, là, un conférencier comme moi, un ami aussi, que j'aime bien, on s'aime, il dit « Ah, tu as eu des problèmes? » Et ça m'a étonné de l'entendre dire « Hein? Tu as eu des problèmes? » Alors, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ou pourquoi est-ce que tout d'un coup, j'ai dit, il veut que j'ai des problèmes? » Mais c'est parce que je pense qu'il ne se reconnaissait pas en moi avec le fait que je ne parlais jamais de mes problèmes.
Alors,
parce que j'avais l'air de quelqu'un qui n'en avait pas, c'est ça?
Tu sais que de temps en temps, j'ai des réflexions très, très aigres où on dit « Ah, regardez-la, celle-là, elle a toujours le sourire.
» Ah, c'est ça, exact, c'est ça.
Et où on m'a déjà dit « Tu vas toujours bien, toi.
Hein? » C'est ça. Donc, on a besoin d'avoir des problèmes. Alors, écoute,
ça fait partie de la convention. On est censé… avoir son petit problème, alors pas trop grave non plus, parce qu'il ne faut pas encombrer les autres avec avec nos problèmes personnels trop lourds, n'est-ce pas? Il faut avoir ces petits problèmes. Et donc, le small talk dit, ah ben, on a bien tous de la misère.
Ouais. Mais le point, disons, pratico-pratique à retenir peut-être pour ce chapitre-là, pour les suréfficients, ce serait de garder leur insistance ou dynamisme ou motivation à vouloir régler tous les problèmes et à être surpositif ou optimiste, etc., de relativiser un peu et de prendre un peu de recul, c'est ça?
Ben, je serais même un petit peu provocatrice en disant si nous mettions l'énergie qu'on met à régler les problèmes des autres, à régler nos propres problèmes, ce serait déjà une utilisation beaucoup plus constructive. Voilà, c'est qu'on s'occupe un peu trop des autres et pas assez de nous-mêmes.
Oui. Mais d'où ça vient, tout ça, d'être capable d'identifier tous ces traits de comportement, de caractère? Moi, ça m'étonne, ça me fascine de savoir comment tu fais pour savoir tout ça. Alors, c'est vrai, tu touches exactement là où ça fait mal, comme on dit ici au Québec. Comment tu fais?
Je pense que s'il y a bien un truc qui m'a marqué dans mes études d'analyse transactionnelle et de PNL, c'est la position de l'observateur. En PNL, on n'invente rien, on observe. Et en analyse transactionnelle, on va encore plus loin puisque Eric Berne parle de l'écoute martienne qui consiste à écouter les gens comme un mauvais enregistreur pour entendre les patterns dans le discours, c'est-à-dire au-delà du discours, d'entendre les patterns. Je te donne un exemple très concret et très récent. Une de mes clientes, j'ai été vraiment surprise, elle me raconte une agression qu'elle a subie en utilisant le futur, en me disant « à ce moment-là, il va comprendre que j'ai compris qui il était, donc il va énormément s'énerver et il va m'étrangler ». Tu vois, donc ce que je vais entendre moi, c'est pas l'histoire, c'est la façon dont elle le dit. Et là, en l'écoutant, moi, la représentation que je me fais, c'est que pour elle, l'agression, elle est encore devant. Elle n'est pas passée derrière puisqu'elle en parle au futur.
Oui.
Tu vois, donc c'est une façon d'écouter différente, une façon d'observer. Et puis, je vais faire ma vieille renarde, mais moi, ça fait 30 ans que j'écoute les gens en continu.
Ouais.
Donc, avec un peu d'esprit de synthèse, à force, les patterns de comportement, j'ai envie de dire, les problèmes les plus personnels sont aussi les plus universels. C'est ce que nous disait Franck Farelli.
Et comment tu as débuté? Donc, je sais qu'on aurait peut-être parlé de ça au début de l'entrevue, mais il reste que c'est une passion. On ne peut pas faire 30 ans à faire quelque chose comme tu le fais aussi bien sans la passion. Et par contre, au départ, c'était quoi la motivation? Tu avais reconnu des choses chez toi ou tu as vécu...
Non, c'est les fameux hasards qui te poussent et te bousculent pour te mettre sur ton chemin de vie quand tu n'étais pas... Non, moi, je n'étais pas du tout partie là-dedans. En fait, mon CV n'est pas complet sur mon site. J'ai commencé ma vie par être institutrice. J'ai fait l'école normale d'instituteur et j'ai enseigné. Et ensuite, j'ai été hôtesse de l'air pendant 10 ans.
Oui.
Donc, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais. Et quand j'ai quitté le métier d'hôtesse de l'air parce que j'avais des enfants en bas âge, j'ai voulu reprendre le métier d'institutrice, mais pour des adultes, en disant, je vais faire de la formation pour adultes, des remises à niveau français maths pour des publics illettrés, pour des immigrés, etc. C'était mon idée, c'était de redevenir institutrice. Et la première boîte qui voulait bien m'embaucher m'a dit, mais vous savez, on a affaire à des publics difficiles, ce serait bien que vous ayez fait un peu de PNL ou d'analyse transactionnelle pour qu'on vous embauche. Et donc, je me suis offert comme ça mon premier stage de développement personnel. Et c'est là où a été la révélation qu'il m'avait demandé de faire un tout petit stage. Et moi, j'ai fait tout le cursus en entier jusqu'au diplôme. Et quand je suis revenue les voir, j'étais trop diplômée. C'était plus ça qu'ils attendaient. Mais du coup, j'avais moi matière à enseigner ça, puisque j'y ai trouvé effectivement à titre personnel un tel confort de vie que j'ai eu qu'une idée, c'est de transmettre.
Mais ton livre, je n'ai pas les codes. On a parlé de la question d'anthropologie. J'imagine que ça va. L'anthropologie va encore plus loin derrière que ce que tu nous évoques là maintenant, là, c'est-à-dire l'analyse transactionnelle, la PNL. Donc, il y a une recherche que tu as continué de faire aujourd'hui pour continuer sur le chemin qui t'a été un peu soumis, comme tu dis si bien, avec le destin il y a une trentaine d'années. Mais parle-nous de cette question du gros cerveau de Sapiens, qui est le titre du troisième chapitre. Parle-nous de ce lien-là entre notre passé lointain, notre évolution en tant que sapien comme tel, en tant que comme humain, et le fait de ne pas avoir les codes ou de chercher les codes.
Alors, l'idée est la suivante, c'est que pendant des millions d'années, l'être humain était un singe parmi les autres. L'Australopithèque avait une boîte crânienne de 600 cm3. Et on ne sait pas pourquoi, après des millions d'années comme ça, très récemment, puisque ça fait que 45 millions d'années maintenant, 45 000 ans, pardon, pas 45 millions, 45 000 ans, le cerveau de l'être humain s'est mis à grossir, à grossir, à grossir, et est passé de 600 cm3 à 1300 cm3 pour le cerveau de Néandertal, et rediminué un petit peu pour Sapiens, où on est à 1200 cm3. Mais tu vois, le cerveau a pratiquement doublé. Et dans ce laps de temps, ce qui s'est passé, c'est que Sapiens a accédé à l'abstraction, ce que n'ont pas les autres espèces, la capacité. Alors on revient un peu là-dessus, parce qu'on se rend compte que finalement les singes et d'autres animaux sont capables de faire des blagues, donc ils ont quand même un cerveau plus élaboré que ce qu'on pourrait croire. Mais pour faire schématique, nous sommes devenus le seul singe sur Terre capable de se battre pour une banane qui n'existe pas. Et avec cette capacité d'abstraction, de se projeter dans le futur, d'aller dans le passé, etc., ce pauvre singe Sapiens s'est découvert mortel. Et je crois, alors ça c'est mon avis personnel, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je le crois sincèrement, je crois que le gros problème de l'être humain, c'est qu'il est devenu extrêmement peureux, parce qu'avec son gros cerveau, il se fait peur tout seul. Et toute l'agressivité des humains, toute leur cupidité, etc., vient de la peur. Quand je suis dans la confiance, je suis quelqu'un de très sociable. Dès que je commence à avoir peur, vont apparaître des comportements de survie, d'attaque, de mesquinerie, de rétention, etc. Et donc, ce pauvre sapiens, il est encombré de ce cerveau, des films qui se font, etc. Et je pense que l'enfer, il est sur Terre, dans nos capacités d'abstraction.
Tu le dis toi-même, à un moment donné, tu dis le mental est la source de nos malheurs ou de notre enfer. Là, je te paraphrase, là, je l'ai pris en note, mais je ne l'ai pas devant moi. Ça, c'est très, très, très éloquent, mais aussi, pendant qu'on est dans cette question-là l'anthropologie, d'une certaine façon, et de la peur qui est à la source des motivations, puis aussi le fait qu'on est capable de comme tu dis, tu viens de le dire, mais aussi tu en parles dans le livre, de se faire peur avec un potentiel manque de bananes, alors qu'en ce moment, il y a une surabondance, puis elles pourrissent dans les arbres, dans les bananiers, alors que l'humain, justement, est-ce que ça vient du fait que son cerveau a augmenté, sa conscience a augmenté, sa conscience de lui-même, du passé, du présent, de l'avenir, etc. Ça, je pense qu'on ne le sait pas, mais il y a une chose certaine, c'est que c'est à partir du moment où on est devenu sédentaire, parce que 40 000 ans, ça correspond à la période où on serait devenu agriculteur, éleveur, donc on s'est spécialisé, comme tu expliques aussi dans le livre. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point tu es capable d'arriver et de dire, regardez là, ici, Sapiens a évolué trop vite, encore occupé à se bomber le torse, se frapper la poitrine en poussant des cris pour intimider l'autre. Alors qu'au niveau technologique, ben là, on est complètement dépassé. on a encore cet état primitif-là, et souvent, ce sont ceux qui mènent les nations, les pays.
C'est les plus primitifs qui mènent, c'est paradoxal.
Ce sont les plus primitifs, exactement, des mâles alpha, carrément inconscients, insouciants, etc. Donc, non seulement là, ici, je trouve que tu évoques un contraste qui est alarmant, on s'entend, parce que on sait que la technologie se nourrit de la technologie pour faire avancer la technologie. Notre cerveau, lui, pendant ce temps-là, n'est pas encore capable d'assimiler exactement toutes nos interactions entre humains. Et là où ça va mener, je ne sais pas, mais nous, en tant que surefficients, revenons à avoir les bons codes. Le surefficient que nous sommes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour demeurer le plus serein possible dans tout ce cyclone que l'on vit en ce moment, là.
C'est de revenir le plus possible au présent et à la terre.
C'est-à-dire?
Ben, tu vois, par exemple, là, je fais mon premier potager, je suis en train de faire mes conserves pour cet hiver, revenir à quelque chose de très, tu vois, okay. de presque ancestral, si tu veux.
Ouais.
J'ai 3 arbres fruitiers dans mon jardin et mon prunier croule sous les prunes. Je vais faire des beaux coups de prunes pour l'hiver. Revenir, voilà, à des choses très concrètes.
Okay.
Et cette espèce de, à la fois d'autonomie qui pourrait d'ailleurs virer à l'autarcie au bout d'un moment, faire attention aussi, mais revenir à du local, à du collectif. À une vision. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Nérins, je ne sais plus son prénom, qui a écrit L'illusion technique, où il dit que finalement la période la plus heureuse de l'humanité, c'était toute la période de la Renaissance, où l'humanité avait arrêté d'évoluer et vivait de manière très rurale.
Ah oui,
On est fait pour ça. On est fait pour vivre de manière très rurale, au contact de la nature, des saisons, dans la collaboration avec nos voisins, de se donner un coup de main pour les moissons, etc. En effet, pour être des petites communautés, ce qui pose problème pour Sapiens aussi, c'est qu'on a des groupes humains beaucoup trop gros maintenant. Il faudrait revenir à des petites communautés.
Écoute, tu as vu le film documentaire Happy? Happy comme heureux, Happy?
Non, je ne crois pas, non.
H-A-P-P-Y, si je peux me permettre de recommander ce film documentaire-là à nos auditeurs. C'est en 2014, on a fait la plus grande étude sur le bonheur partout sur la planète et on l'a documenté justement dans ce documentaire-là qui a été primé des dizaines de prix. Il n'y a jamais un documentaire qui a eu autant de prix que ça. C'est évidemment offert dans toutes les langues. Vous pouvez le retrouver sur Prime, Amazon ou Netflix ou carrément sur YouTube ou vous pouvez acheter le bon vieux disque DVD. Et je vous le dis, là, ne pas voir ce film-là, c'est manquer quelque chose parce que là, on voit que, bon, on est heureux, peu importe les circonstances, et on explique justement la nature et la configuration du bonheur un peu partout dans le monde et chez les individus. Mais une chose, pour revenir à ton point, c'est qu'en Scandinavie, en fait, je ne me souviens plus lequel des 4 pays, mais il reste qu'on a commencé à recréer des communautés où les enfants, c'est-à-dire les maisons sont connectées, il y a un jardin intérieur communautaire, on fait la nourriture, c'est-à-dire on fait la cuisine 2 fois par mois seulement, tout le monde ensemble, les personnes âgées qui sont souvent devenues célibataires, on s'entend avec les années, ce sont des femmes, et les enfants des familles se retrouvent avec les personnes âgées de d'autres familles. Et là, ça rend tout le monde beaucoup plus équilibré, plus heureux. Le soir, on n'a plus besoin de se stresser, qui est apparemment une des plus grandes sources de stress dans les familles. C'est la cuisine à chaque soir de la semaine pour le repas du soir. Et puis bon, les lectures, puis les devoirs et le bain et tout ça pour les enfants. Alors, tout ça pour dire que dans ce film-là, on entend, on voit en temps réel, c'est-à-dire ça se fait comme ça aujourd'hui. Et souvent, les Scandinaves, tu le sais bien, sont souvent plus en avance au niveau social que la plupart des autres pays dans le monde. Et je pense que ça vaut la peine.
Ils sont en avance pour revenir en arrière à quelque chose qui fonctionnait autrefois. Hein. C'est ça qui est terrible. Effectivement, le monde neurotypique a ce problème de vouloir cloisonner, ranger par taille, etc. Par exemple, à l'école, le fait de mettre les enfants exactement du même âge dans la même classe, ils ne peuvent rien s'apprendre mutuellement puisqu'ils sont au même stade d'évolution, sauf se mettre en compétition. On ferait une classe multiniveau, les grands apprendraient à prendre soin des petits, les petits auraient des modèles, on développerait l'empathie, on développerait la tolérance à la différence, la patience vis-à-vis des petits. Et par exemple, aujourd'hui, on n'a plus aucune patience pour les vieux. Donc, redévelopper l'empathie. On ne peut pas être empathique sur un groupe trop grand. Pour que l'empathie se développe, il faut que ce soit une petite tribu et qu'on se connaisse suffisamment.
Ah oui, hein, c'est ça. Et ça doit expliquer aussi, dans le fond, la tendance dans les cités, dans les grandes villes, à s'isoler davantage parce que le nombre nous effraie d'une certaine façon, premièrement, et nous empêche justement de développer cette empathie-là, qui est autant chez les accessibles, chez les normaux pensants, que chez nous, les suréfficients. Et à force de ne pas développer un muscle, ben, le muscle s'atrophie. Donc, j'imagine que ça fait partie aussi, chapitre 4, de nos angoisses existentielles. Parce que là, appelons le suréfficient pour un moment l'hypersensible. Parce que c'est un des synonymes qu'on utilise. Et l'hypersensibilité de cette catégorie d'individus, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est à la source, justement, de cette hypervigilance, je pourrais dire, sensorielle de qu'est-ce qui se passe dans le monde, des difficultés, de qu'est-ce qui pourrait arriver et qui, dans le fond, justement, crée et grossit l'angoisse que l'on peut porter, nous, en tant que suréfficients ou non?
Oui, absolument, absolument. C'est bien résumé, effectivement. C'est un niveau de conscience. Si tu veux, plus mon système sensoriel est ouvert et ouvert sur le monde, plus j'ai conscience de ce qui s'y passe, plus je fais des connexions entre les éléments. Et donc, oui, j'ai une conscience aiguë du monde. Donc, ça augmente les angoisses. Mais il y a aussi le fait qu'on ne gère pas les angoisses de la même façon.
C'est-à-dire?
Alors, les angoisses existentielles sont aussi communes à tous les humains. Il y en a 4, il n'y en a pas 10 000. L'angoisse de mort, je suis mortel, un jour je vais mourir, ça ne me fait pas plaisir. L'angoisse de solitude, parce qu'on a beau dormir, hein, c'était la chanson de Starmania, on dort les uns contre les autres, mais au bout du compte, on est tout seul au monde. Je nais seul. Je suis seule dans mon corps quand j'y suis malade et je mourrai seule. Donc, l'angoisse de solitude. L'angoisse de responsabilité, on l'appelle l'angoisse de liberté. Mais si je suis libre, je suis responsable. Alors, c'est tout le travail de mise en servitude volontaire pour se déresponsabiliser. Mais, et la dernière angoisse existentielle, c'est le sens de la vie. Pourquoi on est, pourquoi on meurt, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, la façon de gérer ces angoisses existentielles qui sont communes à tous les humains n'est pas du tout la même chez les suréfficients et n'est pas du tout la même chez les normaux pensants. Les normaux pensants, ils donnent un sens à la vie qui est le récit collectif, il faut se marier, faire des enfants, travailler, prendre sa retraite, etc. Ils ont un récit collectif dans lequel ils trouvent le sens qui leur va bien. L'angoisse de responsabilité, ils se mettent en servitude volontaire. Moi, si j'obéis, normalement, je serai récompensée. Au niveau de l'angoisse de solitude, eh ben, ils font du small talk et ils arrivent à vraiment faire des groupes qui se tiennent chaud. Et au niveau de l'angoisse de mort, ils préfèrent oublier qu'ils sont mortels. Donc, toute leur façon de gérer leur angoisse existentielle consiste surtout dans les addictions et dans la distraction. Ce qu'on disait à Rome, des jeux, du vin, ça suffit à occuper les foules. Ils en oublient leur statut de mortel. Et là, on retrouve, tu vois, ce gros cerveau de Sapiens qui lui a appris, qui lui a donné une telle conscience qu'elle en est douloureuse. Donc, il fuit cette conscience et ce gros cerveau dans les addictions et les distractions. Là où nous, les suréfficients, on va se pencher au bord de l'abîme en permanence. On se met des sacrés hauts de cœur, mais moi, c'est tous les matins que je me rappelle que je suis mortelle. Et ça me fait plaisir, en plus.
Oui,
C'est le paradoxe. On doit me trouver dépressif parce que je parle assez souvent de ma propre mort et de la mort en général, alors que pour moi, je me sens d'autant plus vivante que je garde en conscience que tout peut s'arrêter en un instant, à tout moment.
Exact. Ça revient un peu à, en fait, la simili-anecdote que j'ai lancée tout à l'heure par rapport à quand on vit un grand accident. Puis je sais que sans dévoiler des trucs personnels, je sais que tu as vécu un moment de santé dans les dernières années qui t'a peut-être aussi confronté à cette,
cette... Mon statut de mortel.
Cette, ben, j'allais dire ce statut précieux qu'est la vie.
Mais je pense que tous, à un moment donné, on a une maladie grave ou on a un accident ou on a la peur de sa vie. Et tu sais, j'ai pas de problème à lire. J'ai fait une alerte cardiaque tout simplement il y a 2 ans. Et je me suis effectivement vue partir. Et puis, si tu veux, la différence avec la maladie, c'est que c'est extrêmement soudain. Je pense qu'effectivement, quand tu as une maladie grave, tu as le temps d'y penser, d'y réfléchir, etc. Quand c'est une alerte cardiaque, c'est tout allait bien et d'un coup, pouf, il se passe quoi, hein?
Mais comme on est dans le circuit des angoisses existentielles, je pense que chez l'humain en général, le fait d'être un peu plus axé vers la tendance à quand même inconsciemment croire qu'on est immortel et notre témérité quand on est plus jeune, etc., nous permet justement d'éviter de paralyser. Parce que si on était toujours conscient de ce danger-là, on ne prendrait pas la voiture, on ne sortirait pas dans la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a comme une fonction quand même vitale dans le fait d'être un peu... comment on appelle ça? Là, d'être, c'est la fameuse scotomie. Tu sais, la scotomie là, de regarder, mais ne pas voir.
Mais tu vois, là, on est vraiment sur la différence normaux-pensants et sur-efficients. Okay. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la mort tous les matins, mais d'être conscient de la mort tous les matins. Et de ne plus en avoir peur parce qu'on en a apprivoisé l'idée. C'est les fameux gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Quand ils reviennent, ils n'ont plus peur de mourir. Ils n'ont plus peur. Donc, ils ont intégré le fait qu'ils étaient mortels. C'est un peu ce qui m'est arrivé, finalement. C'est que j'ai intégré le fait que j'étais mortelle et que quand ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton heure. Donc, quand ce sera ton heure, ce sera ton heure. De toute façon, il n'y a pas grand-chose que tu peux y faire. Mais donc, ça ne t'empêche pas de continuer à prendre des risques. Et au contraire, tu te mets à vivre plus intensément, je trouve.
Pour terminer, moi, j'aimerais qu'on, si tu permets, qu'on fasse un genre de rafale de justement de termes ou de traits de caractère des suréfficients. Et ensuite de ça, bon, on fasse la même rafale, mais pour peut-être terminer là, avec des pistes de solutions là, pratico-pratiques. J'en ai noté quelques-unes. Tu en rajoutes ou tu m'arrêtes si jamais j'ai mal interprété ce que tu écris. La question du contenu psychique, quand on se dévoile plus rapidement, ça c'est peut-être un des traits de nous, les suréfficients, versus la simple présence physique là, où on ne s'éparpille pas. Est-ce que ça se dit éparpiller en France?
Oui, ça se dit.
Oui, OK.
Tu vois, je peux te citer une de mes clientes qui est arrivée un jour en séance en me disant, depuis qu'on travaille ensemble, j'ai compris un truc, c'est que je croyais que pour être acceptée par les gens, il fallait que je mette mes tripes sur la table. Mettre mes tripes sur la table je me suis rendu compte que un, on ne me le demandait pas, mais que deux, ça les dégoûtait de voir mes tripes.
Ben c'est assez bien résumé, l'image est graphique, mais il reste que c'est graphique, mais il reste que c'est tout à fait vrai. Puis en tout cas, moi je sais que je suis 100% mais du moins je l'étais beaucoup plus comme ça, puis tu m'as fait prendre conscience en te lisant que j'y allais encore pour un homme dans la cinquantaine, là, que les petits bonhommes sourire dans les courriels et puis les fantastiques, super, tous les superlatifs que je peux utiliser, les compliments, etc. Là, je me suis dit, OK, moi, je pensais que j'étais quelqu'un qui complimentait, mais je me rends compte que dans le fond, c'est mon côté empathique, surempathique qui déborde et qui n'est pas géré finalement. Là. Donc, est-ce que je me trompe?
Alors, j'aime bien le mot déborder parce qu'effectivement, les, les normopensants se sentent vraiment submergés par on donne trop, on regarde trop, on fait trop de compliments, on s'intéresse trop, et ils se sentent vraiment envahis par nous.
La familiarité, disons, presque instantanée, est-ce que c'est aussi un trait chez des familiers de...
Pour les neurotypiques, il y a des cadres. Il y a des codes. Je ne me comporte pas pareil quand je vais voir mon banquier pour lui demander un prêt, quand je vais acheter mon fromage, quand je suis avec un collègue, quand je suis avec mon patron, quand je suis avec ma famille. Ils ont leur cadre d'interaction avec les codes qui correspondent. Donc, effectivement, avec mon banquier, je vais avoir une certaine attitude, avec mon patron, une autre, avec un collègue, une troisième, et nous, on est pareil avec tout le monde tout le temps, c'est-à-dire hyper bienveillant, hyper chaleureux, hyper ouvert, trop intimiste, et du coup, on dérange beaucoup, et on crée des quiproquos terribles.
C'est-à-dire ?
Ben, par exemple, j'ai dans ma clientèle plusieurs femmes qui se sont fait draguer par un professeur en médecine alors qu'elles allaient à l'hôpital pour des problèmes de santé sérieux, parce que leur attitude trop chaleureuse, ouverte, empathique et d'égal à égal avec les médecins ont donné l'illusion aux médecins qu'elles draguaient. Là, c'est important de dire à nos auditeurs que ce côté-là, les neurotypiques l'utilisent pour draguer. Donc, nous, on drague tout le temps sans le savoir.
Donc,
il faut,
on se retient, on est conscient maintenant, donc on y va selon plutôt, comme tu dis dans le livre, là, un peu plus vers la fin, là, puis en passant, là, on ne l'a pas dit, mais tu le dis très bien au début du livre, de ne pas sauter d'un chapitre à l'autre, de vraiment le lire comme il a été construit, c'est-à-dire de A à Z, là, comme ça, du début, comme ça, le choc.
Oui, parce qu'en fait je construis mes livres de façon à ce que ce soit une promenade où les prises de conscience se font en douceur. Et si tu sautes des étapes, tu risques de tomber, comme je suis très provocatrice quand même, tu as vu dans le livre, tu risques de tomber sur une provocation qui, hors de son contexte, te blesse ou te fasse te refermer, alors que si tu avais eu toute la progressivité avant, tu saurais pourquoi je dis ça à cet endroit-là, et les déclics peuvent se faire en douceur.
Et je dirais aussi qu'en lisant, j'avoue, peut-être que c'est un trait personnel, mais d'analytique un peu, là, c'est que je cherchais à savoir où tu allais avec ça, etc. Donc, et je pense qu'il faut mettre l'interrupteur vers le bas, là, à off, comme on dit ici, et puis de se laisser porter par ton récit et éventuellement, un moment donné, plus loin dans le chapitre ou dans le livre, on va finir par saisir pourquoi tu nous as raconté tout ce que tu nous as raconté sur, par exemple, les angoisses de la mort, la solitude, etc.
Je dirais les suréfficients ont un système de valeurs qui est bétonné. C'est-à-dire que je ne transigerai pas sur mon empathie, sur mon intégrité, etc. Donc là, effectivement, on peut être assez psychorigide quand il s'agit de nos valeurs, de justice, de choses comme ça. Mais c'est sur les valeurs, ce n'est pas sur le récit. Et par contre, c'est le récit collectif qui induit de la pensée unique. C'est-à-dire que le récit, alors je te le fais très schématique, mais en gros, le récit collectif dit... tu dois aller à l'école, tu dois trouver un métier, tu dois trouver une épouse, tu dois faire des enfants, tu dois donc aimer le foot. Alors, je te le fais vraiment caricatural à la française, tu dois aimer le foot et la bière, tu dois faire des barbecues avec tes voisins, voilà, et ensuite prendre ta retraite, etc. Et dès que les gens sortent de ce récit collectif, ils se font rappeler à l'ordre. Comment ça, t'es pas encore marié? Comment ça, t'as pas encore d'enfant? C'est très lourd aussi, hein, ce récit collectif, ce conformisme. Et c'est là où on retrouve la pensée unique, c'est que si tu commences à avoir un discours qui contredit le récit collectif, on a vu les narratifs pendant la pandémie, on voit le narratif à propos de la guerre en Ukraine. Si tu sors du narratif du récit collectif, Tu t'attires des ennuis. Je dis en matière de communication, nous sommes en permanence en freelance et en impro total. On est tout le temps en train d'improviser, etc. Alors que là, sans qu'on s'en rende compte, chez les neurotypiques, c'est beaucoup plus codifié. On sait quoi dire à qui et quand. Alors que nous, on est tout le temps en freestyle. Il peut se passer n'importe quoi tout le temps. Donc, on est tout le temps en danger. Et c'est là où je te dis, mes lecteurs ont trouvé une sécurité à comprendre ça. C'est-à-dire, nous, on n'a aucune barrière, aucune limite. Il peut se passer tout à tout moment. On est ouvert.
Ah oui, moi, ça m'a changé. Moi, je sais que ça m'a changé parce que même, écoute, ça va même jusqu'à nos dernières interactions, là, les courriels, les mails qu'on s'est envoyés, toi et moi, depuis 48 heures pour la préparation de cette entrevue. Je me suis rendu compte, ah, oh, mais là, quand j'ai écrit que j'ai trouvé son livre fabuleux, là, elle doit dire, ah, tiens, le voilà, là, lui, il est en train de tomber dans le panneau des suréfficients en étant, disons, très. Comme on dit, nous ici, de mettre beaucoup de crémage sur le gâteau. Je veux dire,
D'une manière générale, oui, tu as raison. Je recommanderais aux suréfficients d'être plus modérés dans leur enthousiasme en général. Et dans le monde neurotypique, ça se fait, les compliments se font pratiquement pas. Il faut pas arrêter de donner des compliments, mais il faut donner des compliments très dosés, sincères, personnalisés et contextualisés.
Comme tu dis à un moment donné, tu dis justement au lieu de. Tu parles d'authenticité. Ça, je pense qu'il faut au moins terminer avec ça. De réagir avec cœur et conscience, pas nécessairement de cette émotivité-là ou de ces émotions qu'on parle, et selon nos valeurs. Donc, avec cœur et conscience, selon nos valeurs, être authentique, ça ne veut pas dire nécessairement de déballer la partie
Alors,
justement des
oui,
émotions.
c'est vraiment quelque chose que je voudrais que les surefficients comprennent. Il y a une grande différence entre être spontané et être authentique. La personne spontanée fait les choses de manière automatique, sans réfléchir. La personne authentique met de la conscience dans ce qu'elle fait.
Et c'est ça la recommandation, dans le fond, ultime
Oui,
de ton
oui.
livre, c'est de mettre dans la conscience sur la personne suréfficiente que nous sommes et de nos actions, nos comportements là, comme ça en société. Et on va s'en porter mieux. Parce que même moi, je ressens, sais-tu qu'est-ce que je ressens depuis que j'ai lu ton livre, à mesure que je le lisais et maintenant que je me suis rendu compte à quel point je refaisais l'erreur que je ne voulais pas faire, que tu nous mets en garde. C'est justement, c'est je me sens libéré, je me sens soulagé de cette chose que je ne pensais pas qui me pesait. Et maintenant que je suis conscient, je peux connaître et reconnaître. Et maintenant me dire, OK, c'est OK, je n'ai pas besoin de faire, d'aider les gens à passer une meilleure journée selon mes schèmes de valeur ou ma façon d'être ou ma façon de faire. Alors, moi,
Absolument.
ça m'a beaucoup soulagé, beaucoup aidé.
Oui, parce que le retour que j'en ai, le livre met en sécurité.
Exact. Ah oui, tout à fait. Mais écoute, là-dessus, je pense que c'est la meilleure façon de terminer sur des bénéfices et des bénéfices et des bénéfices. Non seulement je vous recommande, mais c'est presque un devoir que je vous donne de lire. Je n'ai pas les codes. Vous n'êtes pas obligé de rajouter
Les post-it, hein?
non, c'est ça, mes post-it pour les notes, à moins que vous fassiez une entrevue avec Christelle éventuellement, vous-même. Mais un gros merci. Merci de ta générosité, de cette passion, de cet amour pour le métier que tu fais, pour les gens que tu aides, dont je suis, et puis d'avoir ce cerveau-là qui est capable de faire tout ce qu'il fait pour pouvoir nous mettre en lumière notre propre existence et comment la vivre mieux. Merci beaucoup, Christelle
Eh ben,
Petit-Revêche.
merci à toi pour ce moment très agréable.
Je t'en prie. Salut. À la prochaine, comme on dit.